Les habitants de ces pays, réduits plus ou moins ouvertement à l'état d'esclaves, passent continuellement d'un conquérant à un autre. Ils sont employés, comme une quantité donnée de charbon ou d'huile humain, à produire plus d'armes, à s'emparer de plus de territoires et à posséder une plus grande puissance de main-d'œuvre pour produire plus d'armes, pour s'emparer de plus de territoires, et ainsi de suite indéfiniment. Il est à noter que la lutte ne dépasse jamais réellement les limites des surfaces disputées. Les frontières de l'Eurasie reculent et avancent entre le bassin du Congo et le rivage nord de la Méditerranée. Les îles de l'océan Indien et du Pacifique sont constamment prises et reprises par l'Océania ou par l'Estasia. En Mongolie, la ligne qui sépare l'Eurasia de l'Estasia n'est jamais stable. Autour du pôle, les trois puissances revendiquent de vastes territoires qui sont en fait en grande partie inhabités et inexplorés. Mais le niveau de puissance reste toujours approximativement équivalent. Et le territoire qui forme le cœur de chaque super-État demeure toujours inviolé. Qui plus est, le travail des peuples exploités autour de l'équateur n'est pas réellement nécessaire à l'économie mondiale. Il n'ajoute rien à la richesse du monde, puisque tout ce qu'il produit est utilisé à des fins de guerre. Lorsqu'on livre une guerre, c'est toujours pour être en meilleure position pour livrer une autre guerre. Par leur travail, les populations esclaves permettent de hâter la marche de l'éternelle guerre. Mais si elle n'existait pas, la structure de la société et le processus par lequel elle se maintient ne seraient pas essentiellement différents. Le but primordial de la guerre moderne, en accord avec les principes de la double pensée, ce but est en même temps reconnu et non reconnu par les cerveaux directeurs du parti intérieur. Et de consommer entièrement les produits de la machine sans élever le niveau général de la vie. Depuis la fin du XIXe siècle, le problème de l'utilisation du surplus des produits de consommation a été latent dans la société industrielle. Actuellement, alors que peu d'êtres humains ont suffisamment à manger, ce problème n'est évidemment pas urgent, et il pourrait ne pas le devenir. Alors même qu'aucun procédé artificiel de destruction n'aurait été mis en œuvre. Le monde d'aujourd'hui est un monde nu, affamé, dilapidé, comparé au monde qui existait avant 1914, et encore plus si on le compare à l'avenir qu'imaginaient les gens de cette époque. Dans les premières années du XXe siècle, la vision d'une société future incroyablement riche, jouissant de loisirs, disciplinée, et efficiente, un monde aseptisé et étincelant de verre, d'acier, de béton, d'un blanc de neige, faisait partie de la conscience de tous les gens qui avaient des lettres. La science et la technologie se développaient avec une prodigieuse rapidité, et il semblait naturel de présumer qu'elles continueraient à se développer. Cela ne se produisit pas en partie à cause de l'appauvrissement qu'entraîna une longue série de guerres et de révolutions. En partie parce que le progrès scientifique et technique dépendait d'habitudes de pensées empiriques qui ne pouvaient survivre dans une société strictement enrégimentée. Le monde est, dans son ensemble, plus primitif aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 50 ans. Certains territoires arriérés se sont civilisés et divers appareils, toujours par quelques côtés en relation avec la guerre et l'espionnage policier, ont été perfectionnés. Mais les expériences et les inventions se sont en grande partie arrêtées. De plus, les ravages de la guerre atomique de l'époque 1950 n'ont jamais été entièrement réparés. Néanmoins, les dangers inhérents à la machine sont toujours présents. Dès le moment de l'apparition de la première machine, il fut évident pour tous les gens qui réfléchissaient que la nécessité du travail de l'homme et, en conséquence, dans une grande mesure, de l'inégalité humaine avait disparu. Si la machine était délibérément employée dans ce but, la faim, le surmenage, la malpropreté, l'ignorance et la maladie pourraient être éliminées après quelques générations. En effet, alors qu'elle n'était pas employée dans cette intention, la machine, en produisant des richesses qu'il était parfois impossible de distribuer, éleva réellement de beaucoup par une sorte de processus automatique le niveau moyen de vie des humains, pendant une période d'environ 50 ans, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Mais il était aussi évident qu'un accroissement général de la richesse menaçait d'amener la destruction, était vraiment en un sens la destruction d'une société hiérarchisée. Dans un monde dans lequel le nombre d'heures de travail serait court, où chacun aurait suffisamment de nourriture, vivrait dans une maison munie d'une salle de bain et d'un réfrigérateur, posséderait une automobile ou même un aéroplane, la plus évidente et peut-être la plus importante forme d'inégalité aurait déjà disparu. Devenue générale, la richesse ne conférerait plus aucune distinction. Il était possible sans aucun doute d'imaginer une société dans laquelle la richesse, dans le sens de possession personnelle et de luxe, serait également distribuée, tandis que le savoir resterait entre les mains d'une petite caste privilégiée. Mais dans la pratique, une telle société ne pourrait demeurer longtemps stable. Si tous, en effet, jouissaient de la même façon de loisirs et de sécurité, la grande masse d'êtres humains qui est normalement abrutie par la pauvreté pourrait s'instruire et apprendre à réfléchir par elle-même. Elle s'apercevrait alors tôt ou tard que la minorité privilégiée n'a aucune raison d'être et la balayerait. En résumé, une société hiérarchisée n'était possible que sur la base de la pauvreté et de l'ignorance. Revenir à la période agricole du passé, comme l'ont rêvé certains penseurs du début du XXe siècle, n'était pas une solution pratique. Elle s'opposait à la tendance à la mécanisation devenue quasi instinctive dans le monde entier. De plus, une contrée qui serait arriérée industriellement serait impuissante au point de vue militaire et serait vite dominée, directement ou indirectement, par ses rivaux plus avancés. Maintenir les masses dans la pauvreté, en restreignant la production, n'était pas non plus une solution satisfaisante. Cette solution fut appliquée sur une large échelle durant la phase finale du capitalisme, en gros entre 1920 et 1940. On laissa stagner l'économie d'un grand nombre de pays, des terres furent laissées en jachère, on n'ajouta pas au capital équipement et de grandes masses de population furent empêchées de travailler. La charité d'État les maintenait à moitié en vie. Mais cette situation, elle aussi, entraînait la faiblesse militaire et comme les privations qu'elle infligeait étaient visiblement inutiles, elle rendait l'opposition inévitable. Le problème était de faire tourner les roues de l'industrie sans accroître la richesse réelle du monde. Des marchandises devaient être produites, mais non distribuées. En pratique, le seul moyen d'y arriver était de faire continuellement la guerre. L'acte essentiel de la guerre est la destruction, pas nécessairement de vies humaines, mais des produits du travail humain. La guerre est le moyen de briser, de verser dans la stratosphère ou de faire sombrer dans les profondeurs de la mer les matériaux qui autrement pourraient être employés à donner trop de confort aux masses et partant trop d'intelligence en fin de compte. Même quand les armes de guerre ne sont pas réellement détruites, leur manufacture est encore un moyen facile de dépenser la puissance de travail sans rien produire qui puisse être consommé. Une forteresse flottante, par exemple, a immobilisé pour sa construction la main-d'œuvre qui aurait pu construire plusieurs centaines de cargos. Plus tard, alors qu'elle n'a apporté aucun bénéfice matériel à personne, elle est déclarée surannée et envoyée à la ferraille. Avec une dépense plus énorme de main-d'œuvre, une autre forteresse flottante est alors construite. En principe, l'effort de guerre est toujours organisé de façon à dévorer le surplus qui pourrait exister après que les justes besoins de la population sont satisfaits. En pratique, les justes besoins vitaux de la population sont toujours sous-estimés. Le résultat est que, d'une façon chronique, la moitié de ce qui est nécessaire pour vivre manque toujours, mais est considéré comme un avantage. C'est par une politique délibérée que l'on maintient tout le monde, y compris même les groupes favorisés, au bord de la privation. Un état général de pénurie accroît en effet l'importance des petits privilèges et magnifie la distinction entre un groupe et un autre. D'après les standards des premières années du XXe siècle, les membres mêmes du parti intérieur mènent une vie austère et laborieuse. Néanmoins, le peu de confort dont ils jouissent, leurs appartements larges et bien meublés, la solide texture de leurs vêtements, la bonne qualité de leur nourriture, de leurs boissons, de leur tabac, leurs deux ou trois domestiques, leurs voitures ou leurs hélicoptères personnels, les placent dans un monde différent de celui d'un membre du parti extérieur. Et les membres du parti extérieur ont des avantages similaires, comparativement aux masses déshéritées que nous appelons les prolétaires. L'atmosphère sociale est celle d'une cité assiégée dans laquelle la possession d'un morceau de viande de cheval constitue la différence entre la richesse et la pauvreté. En même temps, la conscience d'être en guerre et par conséquent en danger fait que la possession de tout le pouvoir par une petite caste semble être la condition naturelle et inévitable de survie. La guerre, comme on le verra, non seulement accomplit les destructions nécessaires, mais les accomplit d'une façon acceptable psychologiquement. Il serait en principe très simple de gaspiller le surplus de travail du monde en construisant des temples et des pyramides, en creusant des trous et en les rebouchant, en produisant même de grandes quantités de marchandises auxquelles on mettrait le feu. Ceci suffirait sur le plan économique, mais la base psychologique d'une société hiérarchisée n'y gagnerait rien. Ce qui intervient ici, ce n'est pas la morale des masses dont l'attitude est sans importance tant qu'elles sont fermement maintenues dans le travail, mais la morale du parti lui-même. On demande aux membres, même le plus humble du parti, d'être compétents, industrieux et même intelligents dans d'étroites limites. Il est de plus nécessaire qu'il soit un fanatique crédule, ignorant, dont les caractéristiques dominantes sont la crainte, la haine, l'humeur flagorneuse et le triomphe orgiaque. En d'autres mots, il est nécessaire qu'il ait la mentalité appropriée à l'état de guerre, peu importe que la guerre soit réellement déclarée et puisqu'aucune victoire décisive n'est possible, peu importe qu'elle soit victorieuse ou non. Tout ce qui est nécessaire, c'est que l'état de guerre existe. La systématisation de l'intelligence que requiert le parti de ses membres, et qui plus est facilement réalisée dans une atmosphère de guerre, est maintenant presque universelle. Mais plus le rang est élevé, plus marquée devient cette spécialisation. C'est précisément dans le parti intérieur que l'hystérie de guerre et la haine de l'ennemi sont les plus fortes. Dans son rôle d'administrateur, il est souvent nécessaire à un membre du parti intérieur de savoir qu'un paragraphe ou un autre des nouvelles de la guerre est faux. Et il lui arrive souvent de savoir que la guerre entière est apocryphe, soit qu'elle n'existe pas, soit que les motifs pour lesquels elle est déclarée soient tout à fait différents de ceux que l'on fait connaître. Mais une telle connaissance est neutralisée par la technique de la double pensée. Entre-temps, aucun membre du parti intérieur n'est un instant ébranlé dans sa conviction mystique que la guerre est réelle et qu'elle doit se terminer victorieusement pour l'Océania qui restera maîtresse incontestée du monde entier. Tous les membres du parti intérieur croient à cette conquête, comme à un article de foi. Elle y sera réalisée soit par l'acquisition graduelle de territoire, ce qui permettra de construire une puissance d'une écrasante supériorité, soit par la découverte d'une arme nouvelle contre laquelle il n'y aura pas de défense. La recherche de nouvelles armes se poursuit sans arrêt. Elle est l'une des rares activités restantes dans lesquelles le type d'esprit inventif ou spéculatif peut trouver un exutoire. Actuellement, la science, dans le sens ancien du mot, a presque cessé d'exister dans l'Océania. Il n'y a pas de mot pour science en novlangue. La méthode empirique de la pensée, sur laquelle sont fondées toutes les réalisations du passé, est opposée aux principes les plus essentiels de Langsok. Les progrès techniques eux-mêmes ne se produisent que lorsqu'ils peuvent, d'une façon quelconque, servir à diminuer la liberté humaine. Dans tous les arts utilitaires, le monde piétine ou recule. Les champs sont cultivés avec des charrues tirées par des chevaux, tandis que les livres sont écrits à la machine. Mais dans les matières d'une importance vitale, ce qui veut dire en fait la guerre et l'espionnage policier, l'approche empirique est encore encouragée, ou du moins tolérée. Les deux buts du parti sont de conquérir toute la surface de la Terre et d'éteindre une fois pour toutes les possibilités d'une pensée indépendante. Il y a en conséquence deux grands problèmes que le parti a la charge de résoudre. L'un est le moyen de découvrir contre sa volonté ce que pense un autre être humain. L'autre est le moyen de tuer plusieurs centaines de millions de gens en quelques secondes sans qu'ils en soient avertis. Dans la mesure où continue la recherche scientifique, cela est son principal objet. Le savant d'aujourd'hui est soit une mixture de psychologue et d'inquisiteur qui étudie avec une extraordinaire minutie la signification des expressions du visage, des gestes, des tons de la voix et expérimente les effets pour l'obtention de la vérité, des drogues, des chocs thérapeutiques, de l'hypnose, de la torture physique, soit un chimiste, un physicien ou un biologiste, intéressé seulement par les branches de sa spécialité, qui se rapportent à la suppression de la vie. Dans les vastes laboratoires du ministère de la Paix, et dans les centres d'expérience cachés dans les forêts brésiliennes, ou dans le désert australien, ou dans les îles perdues de l'Antarctique, des équipes d'experts sont infatigablement au travail. Quelques-uns s'occupent d'établir les plans des guerres futures. D'autres inventent des bombes fusées de plus en plus grosses, des explosifs de plus en plus puissants, des blindages de plus en plus impénétrables. D'autres recherchent des gaz nouveaux et plus mortels, ou des poisons solubles que l'on pourrait produire en quantité suffisante pour détruire la végétation de continents entiers, ou encore des espèces de germes de maladies immunisées contre tous les antidotes possibles. D'autres travaillent à la fabrication d'un véhicule qui pourrait circuler sous terre comme un sous-marin sous l'eau, ou pour construire un aéroplane aussi indépendant de sa base qu'un navire à voile. D'autres explorent les possibilités même les plus lointaines comme de concentrer les rayons du soleil à travers des lentilles suspendues à des milliers de kilomètres dans l'espace, ou bien de produire des tremblements de terre artificiels ou des raz de marée en agissant sur la chaleur du centre de la Terre. Mais aucun de ces projets n'approche jamais de la réalisation, et aucun des trois super-États ne gagne jamais sur les autres une avance significative. Le plus remarquable est que les trois puissances possèdent déjà dans la bombe atomique une arme beaucoup plus puissante que celle que leurs recherches actuelles sont susceptibles de découvrir. Bien que le parti, suivant son habitude, revendique l'honneur de cette invention, les bombes atomiques apparurent dès l'époque 1940-1949 et furent pour la première fois employées sur une large échelle environ 10 ans plus tard. Une centaine de bombes furent alors lâchées sur les centres industriels, surtout dans la Russie d'Europe, l'Ouest européen et l'Amérique du Nord. Elles avaient pour but de convaincre les groupes dirigeants de tous les pays que quelques bombes atomiques de plus entraîneraient la fin de la société organisée et partant de leur propre puissance. Ensuite, bien qu'aucun accord formel ne fût jamais passé, ou qu'on y fît même allusion, il n'y eut plus de lâcher de bombes. Les trois puissances continuent simplement à produire des bombes atomiques et à les emmagasiner en attendant une occasion décisive qu'elles croient toutes devoir se produire tôt ou tard. En attendant, l'art de la guerre est resté stationnaire pendant 30 ou 40 ans. Les hélicoptères sont plus employés qu'ils ne l'étaient anciennement. Les bombardiers ont été en grande partie supplantés par des projectiles à propulseur. Et le fragile et mobile cuirassé a été remplacé par la forteresse flottante qu'il est presque impossible de couler. Mais autrement, il y a eu peu de perfectionnement. Le tank, le sous-marin, la torpille, la mitrailleuse, même le fusil et la grenade à main sont encore employés. Et en dépit des interminables massacres rapportés par la presse et les télécrans, les batailles désespérées des guerres antérieures au cours desquelles des centaines de milliers ou même de millions d'hommes étaient tués en quelques semaines, ne se sont jamais répétées. Aucun des trois super-États ne tente jamais un mouvement qui impliquerait le risque d'une défaite sérieuse. Quand une opération d'envergure est entreprise, C'est généralement une attaque par surprise contre un allié.